Europe 1, il est 8h.
Information Europe 1, des premières arrestations dans l'enquête sur les violences des derniers jours à Dijon. Les détails dans une seconde. Nous plongerons ensuite dans l'histoire avec un grand H, 80 ans après l'appel du 18 juin.
Il fallait continuer à se battre. Moi, je ne comprenais pas qu'on arrête les hostilités.
Il ne comprenait pas. Alors, il est parti à 16 ans rejoindre le général de Gaulle à Londres et s'engager dans la résistance. Témoignage. Le président de 2020, sur les traces du chef de la France libre, Emmanuel Macron, va décorer de la Légion d'honneur la capitale britannique. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis le mois de février. Air France veut alléger ses effectifs d'au moins 8000 postes, malgré le carburant frais du prêt garanti par l'État. L'éclairage d'Axel de Tarlet. L'affaire bouleverse toute la Grande-Bretagne, la disparition de la petite Maddy en 2007. Dans son village, on ne veut pas croire qu'elle soit morte.
Je voudrais des preuves avant de complètement l'accepter. Si j'étais ses parents, je voudrais pouvoir enterrer ma fille, voir son corps pour en être certain.
Et puis à la fin du journal, les ingrédients des aliments ultra transformés, nos conseils à suivre. Si la liste est longue, c'est mauvais signe.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit l'ancien Premier ministre Manuel Valls. 8h30, on va parler de l'appel du 18 juin 40. Quelle résonance aujourd'hui? Et puis c'est quoi pour vous être gaulliste en 2020? Nous serons avec l'historien Jean Descartes. 8h45, Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Quatre nuits très tendues à Dijon. Des images choquantes d'affrontements entre communautés maghrébines et tchétchènes. Une voiture lancée à toute vitesse et qui finit en tonneau. Des dizaines d'hommes armés de barres de fer, de battes de baseball et d'armes à feu.
C'est une information Europe 1 que vous nous apprenez, Salomé Legrand. Il y a de premières arrestations.
Et oui, une demi-douzaine d'interpellations sont en cours au sein de la communauté tchétchène. Les opérations sont menées par la BRI et le RAID dans plusieurs villes de l'Est de la France. Dijon, bien sûr, mais aussi Strasbourg, Saint-Étienne ou encore Troyes. D'après nos informations, il ne s'agit pas forcément des auteurs de violences directement, mais d'hommes qui ont été identifiés à partir des appels au rassemblement lancés sur les réseaux sociaux, mais également des vidéos des événements diffusés, elles aussi, sur Internet.
Salomé Legrand du service police-justice. D'Europe 1.
À l'époque, déjà, il fallait écouter la radio. 18 juin 40, depuis Londres, un message de 4 minutes qu'on n'a même pas pensé à enregistrer sur le moment. Reste la photo, le général au micro dans les studios de la BBC.
Et c'est dans les pas de Charles de Gaulle que va se glisser aujourd'hui Emmanuel Macron de l'autre côté de la Manche. Mais Jean-Rémy Baudot, les cérémonies commenceront aux Invalides, à Paris.
Trois étapes pour une journée autour de la figure du général de Gaulle. Dans la matinée, Emmanuel Macron se rendra au musée de l'Ordre de la Libération, puis aux traditionnelles commémorations du Mont Valérien, au mémorial de la France combattante. Mais le point fort de la journée du président sera outre-Manche. Malgré les restrictions sanitaires, Emmanuel Macron passera l'après-midi à Londres, capitale de la France libre, rappelle l'Élysée. Premier déplacement à l'étranger pour le président depuis la crise du Covid. Cette journée sera faite de cérémonies et d'échanges bilatéraux avec le prince Charles et le Premier ministre Boris Johnson. Parmi les symboles, Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à la ville de Londres. Il y prendra aussi la parole. À l'heure où le passé de la France et de ses figures historiques sont parfois remis en cause, Emmanuel Macron devrait rappeler aujourd'hui que le général de Gaulle est pour lui, comme l'explique l'un de ses proches, un exemple.
Il y a 80 ans exactement, le général invitait les officiers, les soldats, les ingénieurs et les ouvriers français à se mettre en rapport avec lui.
Cet appel, un jeune homme de 16 ans l'a entendu en direct à la radio et il s'est immédiatement engagé dans la résistance. Yves Meyer, 96 ans aujourd'hui, il se souvient.
Je me trouvais à ce moment-là avec ma famille à Palavas des Flots. Le discours du général de Gaulle, je crois me souvenir qu'on était à l'hôtel et qu'on l'a entendu à l'hôtel. Mais bon, c'était un discours parmi tant d'autres, parce qu'il y avait des discours de tous les côtés à ce moment-là. Il y avait Pétain, il y avait... On a trouvé très bien qu'il y ait quelqu'un qui veuille que la France continue. Il fallait résister, il fallait continuer à se battre. Moi, je ne comprenais pas qu'on arrête les hostilités. Il fallait partir en Afrique du Nord, c'était ce que je pensais, ce que ma famille pensait également.
Le témoignage d'Yves Meyer, ancien résistant au micro Europe 1 de l'Ordre d'Autriche et sur l'appel du 18 juin 40. Vous pouvez retrouver le podcast d'Europe 1 au cœur de l'histoire, c'est en ce moment sur europe1.fr.
Europe 1, il est 8h04.
22 000 postes supprimés chez Lufthansa, 4 500 chez EasyJet, 12 000 chez British Airways. Il fallait s'attendre à ce qu'Air France allonge la liste. Eh bien, selon le journal Les Échos, 8 à 10 000 postes sont menacés au sein de la compagnie.
Axel de Tarlet, avec l'aide de l'État, Air France a bénéficié de plusieurs prêts, 7 milliards d'euros au total, mais ça n'évitera pas un plan social.
Oui, alors ça peut paraître très surprenant, d'autant qu'on a eu exactement la même chose avec Renault, hein, qui lui aussi a reçu une aide de 5 milliards d'euros et supprime par ailleurs 15 000 2000 emplois. En fait, le message de l'État est très clair, ce ne sont pas des aides à fonds perdus. Au-delà de cette crise du Covid, l'État aide en échange d'une restructuration. Il faut supprimer les foyers de perte. Alors, chez Air France, les foyers de perte, eh bien, c'est le réseau domestique, les liaisons entre villes françaises qui affichent 200 millions d'euros de pertes. Et puis, l'autre raison qui justifie cette restructuration, c'est l'impératif écologique. Le gouvernement veut supprimer les vols courts, là où il existe une offre TGV. Alors, typiquement, c'est Paris-Bordeaux, Paris-Nantes ou Paris-Lyon. Donc, vous voyez, que ce soit pour des raisons économiques ou écologique, Air France doit réduire la voilure sur son réseau domestique. Et d'ailleurs, la filiale Hop, qui assure ses vols courts courriers en France, va être lourdement pénalisée et devrait perdre un tiers de ses effectifs.
Axel de Tarlé, et dans ce contexte, il était temps que des bonnes nouvelles arrivent, ou plus exactement, de moins mauvaises nouvelles que prévues. On en parlait à 7h40 avec le directeur général de l'INSEE, qui a annoncé hier soir une chute moins violente que prévu de l'économie au deuxième trimestre, 17% au lieu de 20%.
On vous parlait il y a deux semaines de cet appel à témoins lancé par la police allemande dans l'affaire de la disparition de la petite Maddy en 2007. Visiblement, cela a permis de faire avancer l'enquête.
Oui, les enquêteurs disent avoir des preuves que la petite fille de 4 ans est morte. Une nouvelle évidemment très dure à encaisser pour sa famille et pour toute la petite commune de Roffly où elle a grandi. Johanna Chabas.
Dans ce village très tranquille de moins de 4000 habitants, tout le monde connaît Maddy et sa famille. Les habitants l'ont vu grandir, ses parents vivent toujours dans la région. Alors selon les Worpsen commerçantes, cette annonce fait énormément de peine à toute la communauté.
Ça nous rend vraiment tristes. On avait l'espoir de la retrouver en vie. Ce serait bien d'en finir avec cette affaire. On espère maintenant connaître la vérité.
Mais après 13 ans d'enquête, de fausses pistes, les habitants de Worfly restent prudents. Il leur en faut plus pour penser que c'est la fin de l'affaire.
Si le gars qu'ils ont en détention là dit qu'il l'a fait, alors moi je lui dis montre-moi, où est-elle? Où est son corps? Je voudrais des preuves avant de complètement l'accepter. Si j'étais ses parents, je voudrais pouvoir enterrer ma fille, voir son corps pour en être certain.
Les habitants attendent en fait que les autorités britanniques se prononcent sur les annonces allemandes et les confirment. C'est seulement après qu'ils accepteront les preuves de la mort de la petite fille.
L'actualité aux États-Unis avec la parution dans la presse américaine d'extraits d'un livre de John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump, qui l'accuse d'avoir demandé à la Chine d'importer plus de blé et plus de soja américain, et ce, dans le but de favoriser sa réélection. La réaction ce matin de Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, le président Trump a vendu les Américains pour protéger son avenir politique.
Sommes-nous toujours alliés de la Turquie? La question se pose à nouveau sur fond de conflit en Libye.
La Turquie, accusée par Paris de livrer des armes au gouvernement d'union libyen, ce qui violerait au passage un embargo de l'ONU. Et un incident grave en Méditerranée a opposé récemment des navires de guerre turcs et français, Vincent Hervouet.
Il n'y a pas eu de bataille navale. La frégate furtive Courbet a voulu contrôler un cargo chargé d'armement au large de la Libye. Deux frégates turques se sont approchées et ont illuminé le Courbet. C'est-à-dire que leurs radars de tir ont pris pour cible le bâtiment français. C'est l'équivalent d'un tir de semonce électronique. C'est comme mettre en joue l'ennemi avec le doigt sur la détente. Peut-on faire plus belliqueux? Oui, on peut le faire trois fois de suite, et c'est ce qu'ont fait les Turcs. Entre alliés de l'OTAN, on ne fait pas de l'intimidation comme des voyous tchétchènes en virée à Dijon. Surtout que les Français remplissaient une mission OTAN, faire respecter l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye.
On en est resté là et la frégate Courbet a poursuivi son chemin.
Mais on connaît le besoin qu'ont les marins de faire des phrases. Alors l'attaché naval turc a été convoqué, la ministre de la Défense a protesté, Emmanuel Macron a appelé Donald Trump et Ankara nie mollement. La démonstration est faite, les Turcs se conduisent en Méditerranée occidentale comme s'ils étaient en Méditerranée orientale. Ils sont au large du Maghreb, comme chez eux, aux Dardanelles. Leur ambition est transparente, ils veulent leur part du gâteau, du pétrole et du gaz découvert offshore. Et en prime, avec l'armée de djihadistes qu'il a acheminée en Libye, le président Erdogan garde en réserve un bon moyen de pression, juste en face de chez nous.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Europe 1. Vous restez bien avec nous, les aliments transformés, ultra transformés. Dans un instant, nous allons vous aider à bien manger sans vous empoisonner. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h12, la suite du journal François Geffrier, Mathieu Béliard.
Et à ce niveau-là, pardon, ce n'est plus de la nourriture, mais un produit d'usine. Les aliments ultra transformés sont à la une du magazine 60 millions de consommateurs qui alertent sur leur danger potentiel pour notre santé.
Risque de cancer, de maladies cardiovasculaires pour des produits qui représentent aujourd'hui plus d'un tiers des calories que nous mangeons. Pour Europe 1, Ève Roger va nous aider à mieux déchiffrer les étiquettes.
Alerte au rayon petit déjeuner. 90% des produits qu'on y trouve sont des aliments ultra transformés, viennoiseries, céréales ou pâtes à tartiner. Et pour en être sûr, il suffit de lire la liste des ingrédients si vous y trouvez des composés qui n'existent pas dans les placards de votre cuisine. Graisse hydrogénée ou amidon modifié par exemple, banco, c'en est un. Deuxième indice, la taille de l'étiquette. Plus il y a d'ingrédients, de préférence au nom obscur, et plus le risque est là. Une barre chocolatée avec plus de 5 composants est un aliment ultra transformé. Autre exemple cité par 60 millions de consommateurs, le fromage à tartiner Le Paysan Breton, dont la recette ne contient que du lait et du sel de Guérande, vaut mieux que le Kiri qui compte 9 composants, dont un gélifiant et des sels de fonte. Enfin, ce n'est pas écrit sur l'étiquette, mais le procédé de fabrication industrielle est aussi un marqueur. L'aliment ultra transformé est souvent craquant, croustillant, comme les chips, certaines pizzas ou céréales.
On termine avec une petite innovation à venir chez Twitter, qui nous a habitués à écrire de façon télégraphique, 140 caractères au départ. Il va bientôt nous permettre de poster des messages sonores en 140 secondes. À ce niveau-là, c'est quasiment du bavardage.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h. Très bon réveil à toutes et à tous. On retrouve Sonia Mabrouk à 8h13. Sonia et son invité, bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En ce jour où l'on célèbre les 80 ans de l'appel du 18 juin. Où est l'unité de la France autrefois incarnée par le général de Gaulle? Notre société secouée par de multiples crises. L'ancien Premier ministre Manuel Valls dénonce un cocktail explosif. Interview à suivre.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h16, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, conseiller municipal de Barcelone.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Manuel Valls.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Expédition punitive à Dijon. Violence dans les manifestations. Où est l'autorité de l'État?
Elle doit se manifester, en tout cas, parce qu'elle est en permanence, et ce n'est pas un phénomène nouveau, elle est remise en cause pour différentes raisons, parce que nos sociétés, pas seulement la société française, est fracturée. Or, la police, la gendarmerie incarnent précisément cette nécessaire autorité.
Mais qui fait la loi désormais selon vous? Comment vous nommez ce qui bafoue l'autorité de l'État?
Beaucoup bafouent l'autorité de l'État. Mais la loi, c'est la République, c'est le Parlement. Et évidemment, ceux et celles qui l'appliquent, et à commencer par les forces de l'ordre. C'est pour ça que la remise en cause des forces de l'ordre, l'accusation qui a été faite comme si elles étaient collectivement racistes, l'idée qu'il faudrait les désarmer, cette accusation permanente à laquelle on a assisté ces dernières semaines en France est très dangereuse, parce que non seulement on mine le moral de ces forces de l'ordre qui nous protègent, qui ont protégé la France, notamment face au terrorisme ou tous les jours face à la délinquance, qui ont protégé l'État face aux manifestations des Gilets jaunes, mais en minant le moral des forces de l'ordre, en les accusant comme on l'a fait, on mine tout simplement, on divise encore un peu plus la République.
Les forces de l'ordre reçoivent des ordres. Est-ce qu'ils sont suffisamment clairs? Est-ce que le gouvernement, pour le dire de manière directe, a peur?
Je ne crois pas, enfin, je ne l'espère pas. Le président de la République, dimanche dernier, était clair, me semble-t-il, dans son allocution, dans le soutien aux forces de l'ordre. Le rôle du ministre de l'Intérieur, premier flic de France, selon la belle formule de Clémenceau, c'est de protéger, moi je l'ai toujours fait comme ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre face à ceux qui les attaquent. Bien sûr, s'il y a des brebis galeuses, ceux qui ne respectent pas la loi, la déontologie, les règles, s'il y a des propos, des actes racistes, s'il y a des phénomènes de radicalisation islamiste, il en existe aussi dans la police et la gendarmerie, eh bien il faut les écarter, les punir, mais les inspections générales des deux corps de police et de gendarmerie, la justice, font leur travail. Cette idée de remettre en permanence en cause nos institutions, c'est un sport
mais qui
souvent
le fait
national,
Manuel,
qui
vous
est pratiqué,
posé...
ça oui. N'a rien à voir avec la démocratie et la transparence, et c'est dangereux, je le répète, pour la démocratie.
Qui le fait? Qui remet en cause tout cela? Je vous ai demandé de les nommer, ceux qui bafouent, qui défient l'autorité de l'État.
Mais on le voit dans une partie des manifestants, de ceux qui s'en prennent physiquement aux forces de l'ordre. On l'a vu à Dijon, dans un phénomène d'une violence inouïe, qui a sidéré, j'en suis convaincu, les Français. Et tout ceci se termine par une négociation entre les représentants des groupes qui se sont affrontés dans une mosquée. Mais enfin, la France, ce n'est pas une addition de communautés ou de religions, ou de tribus. Donc il faut que la République reprenne pied partout, et c'est le rôle de la police et de la justice, de la protection et de la sanction. C'est ça, tout simplement. Donc il y a une remise en cause générale. Je ne vais pas vous faire la liste de ceux qui remettent en cause l'autorité
de l'État. Non, mais
quand vous dites,
quand vous dites que oui. La République a perdu, en tous les cas, pied quelque part, ce sont les territoires perdus de la République, c'est-à-dire qu'il y a un laisser-faire. Hier, à ce micro, le maire de Dijon, François Rebsamen, niait tout laxisme, niait tout communautarisme rampant dans ces quartiers.
Non, il est difficile de nier le communautarisme ou ces territoires fracturés de la République. Ça fait très honnêtement 30 ans qu'on en parle. Je crois qu'il n'y a pas de zone de non, où l'État serait absent. Les services publics de l'État, municipaux sont là. La police et la gendarmerie peuvent entrer partout. Mais à cause de la crise économique et sociale, de la montée du communautarisme, de la mise en cause de l'autorité de l'État, oui, parfois on a le sentiment qu'on perd pied et qu'en tout cas on cherche à imposer d'autres ordres.
Mais c'est grave,
ça peut être l'ordre
des caïds. C'est un échec aujourd'hui, c'est un constat d'échec de l'État, de ce gouvernement.
Mais Sonia Mabrouk, ce constat d'échec, ça fait des décennies qu'on le fait. C'est ce qui explique aussi que les Français ont perdu parfois confiance dans la politique, dans les institutions, dans la démocratie. Mais bon, c'est facile, c'est ce que je suis en train de faire, de décrire une situation. Il faut agir, et ce gouvernement, comme d'autres, agit, bien évidemment. C'est très difficile, mais face à l'ordre des caïds, face à la montée de l'islam le plus conservateur, face à la violence, tout simplement, qui s'exprime dans notre société, le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, le rôle des responsables politique, c'est d'assumer l'autorité et c'est de protéger les institutions qui sont mises en cause, et c'est aussi, bien sûr, l'occasion de rappeler les valeurs qui unissent la République. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre en cause en permanence ce qui fait notre unité.
Dans la façon dont vous le décrivez, Manuel Valls, on dirait que ce n'est pas fait suffisamment, et je retiens la phrase que vous avez dite sur l'islam, ça se règle en discussion dans les mosquées, c'est quand même grave.
Dans ce cas de figure, ça aurait pu se régler dans une salle municipale, peu importe, mais ce qui me frappe, c'est que deux groupes qui se sont affrontés, qui ont défié la loi, qui ont terrorisé des habitants pour des sombres affaires de trafic sans aucun doute, règlent cela comme si on était dans un film sur la mafia ou au nom d'un code d'honneur. Enfin, ça c'est tout à fait invraisemblable, et je suis moi-même étonné quand je lis ou que je vois des commentaires sur cette négociation et sur cette trêve ou cette paix qui aurait été signée entre ces groupes. Enfin, il faut le dénoncer, parce que les Français qui écoutent et qui entendent cela, qui regardent cela, se disent « mais où sommes-nous ?» Non, là, très souvent on a péché par naïveté. On a cru en 2017, par exemple, que si la société était fracturée, c'était à cause de ceux qui gouvernaient. Non,
qui est le « on » ?
C'est difficile de gouverner. Bon, j'essaie toujours, et c'est ma liberté, de dire les choses comme je pense. Quand j'ai dénoncé la montée de l'antisémitisme dans nos quartiers qui était niée par une partie de la gauche, quand j'ai dénoncé la montée du communautarisme, quand j'ai dénoncé le fait que l'islam politique était en train de prendre pied dans de nombreux quartiers, et je me suis toujours battu contre l'extrême droite, comme je me suis battu, et je me bats aussi contre l'extrême gauche et les mouvances communautaires qui visent à diviser tout simplement notre pays.
Avec des mots très forts qui détonnent, dans une interview accordée à Valeurs Actuelles, Manuel Valls, suite aux récentes manifestations antiracistes, vous affirmez la lutte des classes disparaît au profit de l'affrontement de la guerre entre races que vous dénoncez. Mais de quelle race parlez-vous au juste ?
Mais il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race.
La précision
la race
est quand même bienvenue.
Mais je le dis, il suffit de lire cet entretien. Il y a toujours ceux qui réagissent et qui font des commentaires à un titre. Je dénonce la logique d'une partie de la gauche, de l'extrême gauche, et on trouve cela dans la France insoumise, dans le Parti communiste, chez les écologistes à l'extrême gauche, parfois même au Parti socialiste, en lien avec ce qu'on appelle la mouvance indigéniste ou décoloniale, qui font précisément de l'affrontement, de la guerre, de la lutte entre races, et je mets des guillemets, leur fond de commerce. Et cette guerre, elle est terrible, car elle l'essentialise en fonction de la couleur de peau.
Mais Manuel Valls, dire cela ainsi,
oui,
mais dire cela ainsi, ce n'est pas anodin, ce n'est pas Nice innocent. On se demande quel est votre objectif, Valls pompier ou pyromane dans un tel contexte explosif aujourd'hui dans notre pays ?
Enfin, je comprends votre question, mais ça serait scandaleux de le poser ainsi. Moi, je
vraiment
décris une situation.
Pourtant, vos anciens,
je me bats pour
vos camarades actuels au Parti socialiste le posent. Olivier Faure vous accuse de reprendre la rhétorique du remplacement et de tomber dans le piège de l'extrême droite. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de vos camarades ou peut-être anciens camarades, je ne sais pas.
C'est exactement ce que certains, qui par ailleurs ne réfléchissent pas, ne lisent pas et ne lisent pas cet entretien, pour nier le débat, comme ils l'ont fait il y a 20 ans sur la montée de l'antisémitisme dans les quartiers, comme ils l'ont fait sur le lien entre une partie de l'extrême droite, Soral, et une partie de l'extrême gauche, Dieudonné, qui se retrouvait sur la question de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Je sais bien que tous ces propos gênent. Il ne faut pas parler de ces sujets-là. Le plus important, et c'est vrai, c'est important, c'est la question économique et sociale, c'est le chômage, ce sont les inégalités, c'est la lutte contre les discriminations qui est bien sûr essentielle. Mais si on ne décrit pas et si on ne pose pas ces problèmes, on se trompe. Et il y a une partie de cette mouvance, de ces quartiers. Écoutez, franchement, on l'a vu dans la manière dont on s'est emparé de l'émotion légitime après la mort de George Floyd aux États-Unis pour faire une comparaison avec ce qui se passait en France et pour accuser la France d'être un État raciste et la police et la gendarmerie d'être
Manuel
raciste.
Valls.
Enfin,
on
a vu tout cela,
entend.
Ne tournons pas les pages trop vite.
Oui.
Il y a ceux qui veulent mettre en cause la République au nom de l'affrontement entre les couleurs, et je mets des guillemets, entre les races. Et ça, c'est insupportable.
Mais vous comprenez
c'est pour ça
que
qu'il
même avec des guillemets,
pour mieux le combattre.
Même avec des guillemets, Monsieur Manuel Valls, ça peut choquer. Pourquoi vous ne dites pas plutôt une guerre de communauté en employant vous-même le mot race ? Eh bien, vous le reprenez à votre compte, même si vous me le dites clairement, vous niez évidemment l'existence de race.
Mais parce que c'est eux, c'est cette mouvance qui, par exemple, présente l'idée de l'existence d'un privilège blanc. Et quand on parle de privilège blanc, c'est que précisément on rentre dans ce débat entre les couleurs. La République, elle a expulsé les races, selon la belle formule de Jean-Pierre Chevènement, il y a quelques jours, de l'espace public. Donc c'est bien cela qu'il faut avoir en tête. C'est les valeurs de la République, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Le racisme, il est partout, à l'égard de ceux qui ont une couleur ou de ceux qui n'ont pas. Je pense notamment aux Français juifs. Donc ce racisme, il existe dans notre société. Il faut le combattre par la loi. Il faut lutter contre le racisme et les discriminations. Mais l'idée de l'existence d'un privilège blanc qui est avancé par ces groupes, précisément vise à créer une confrontation entre les couleurs et pardon de parler cash, mais si on ne parle pas cash, si on ne dit pas les choses franchement, on passe à côté de l'essentiel.
Et c'est important de le rappeler en ce jour de célébration des 80 ans de l'appel du 18 juin et la mémoire du général de Gaulle. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27, vous êtes sur Europe 1. Le gaullisme aujourd'hui, les 80 ans de l'appel du 18 juin, on en parle dans quelques toutes petites secondes avec l'historien Jean Descartes. À tout de suite.
Europe 1, il est 8h31. C'était il y a 80 ans l'appel du général de Gaulle. Votre invité Mathieu Béliard et l'historien Jean Descartes. Que reste-t-il de cet appel du 18 juin ? Vous intervenez au 39-21 et au hashtag Europe 1.
Jean Descartes en direct avec nous ce matin. Bonjour Jean Descartes.
Bonjour.
Parce que d'habitude, on vous entend en enregistré sur le podcast Au cœur de l'histoire. Merci d'être avec nous ce matin. Pour quelques questions, quelques échanges avec nos auditeurs, je vois que Romain et Linda sont là. Mais d'abord, cet appel du 18 juin, il y a 80 ans. En quoi est-ce qu'il est d'actualité ?
Ben, il est d'actualité parce qu'il a montré une forme de résistance et de volonté de reconstruire un pays qui était à l'abandon. Alors, il faut bien dire que le général de Gaulle, à ce moment-là, est un homme qui, un mois plus tôt, à Montcornet a remporté la seule victoire dans cette défaite de l'arme blindée. Hein, c'était un... Il a gagné 14 km dans la bataille de l'Ailette. Mon père, le romancier Guy Descartes, était jeune officier et se souvenait de cette bataille. Bon, de Gaulle, il faut le dire tout de suite, sans l'appui de Churchill, le 18 juin gaulliste n'aurait pas pu avoir lieu parce que Churchill se battait contre son propre cabinet où il y avait l'ancien Premier ministre Chamberlain, l'ancien ministre des Affaires étrangères Lord Halifax qui était pour une négociation avec l'Allemagne. Donc c'est très important de rappeler, si vous voulez, ce contexte. Churchill était d'abord un peu réticent, ce général français pas très connu. Est-ce que ça ne va pas indisposer le gouvernement français? Il y avait le changement, le départ de Paul Reynaud, l'arrivée du maréchal Pétain. Et puis, il faut dire aussi que sans le succès de l'opération Dynamo à Dunkerque, Churchill n'aurait pas eu le poids de soutenir de Gaulle, tout en, j'allais dire, en le maîtrisant. Le discours en question, même si les gaullistes n'aiment pas ça, a été un petit peu amendé, corrigé. Voilà. Alors, à 49 ans, ce qui est très important de dire, c'est que si de Gaulle entre dans l'histoire, un mois plus tard, il avait rencontré Churchill, il y avait une discussion dans le Val-de-Loire, et Churchill dit suivant, j'aperçus dans le couloir le général de Gaulle, immobile, flegmatique, le saluant, je lui dis à mi-voix, en français, l'homme du destin. Ça, c'est très, très intéressant. Alors,
Churchill lui dit ça ?
Oui, absolument. Ouais. Et le 18 juin, si vous voulez, le discours est enregistré à 18h. On sait qu'il a été dactylographié par Elisabeth de Miribel, qui a eu du mal à lire l'écriture du général. Il y a eu des modifications dans le texte sur la pression du cabinet. Et ce qu'il faut dire tout de suite, parce qu'on l'oublie, c'est que Churchill lui-même avait un discours très important ce jour-là, devant la Chambre des communes. Ça n'est pas le fameux discours du mois de mai où il dit « Je vous promets de la sueur, du sang et des larmes ». Non, pas du tout. Il dit que tous les peuples et des pays qui sont occupés, les Finlandais, les Polonais, les Tchèques, etc., seront libérés et que la France sera libérée. Et dans son discours, de Gaulle dit « La France n'est pas seule ». Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà plusieurs gouvernements en exil qui sont à Londres.
Le travail de Churchill dans l'ombre, pour le coup, aujourd'hui, pour les Français qui retiennent essentiellement le général de Gaulle. On va accueillir Linda avec nous au 39-21. Bonjour Linda.
Bonjour.
Et vous, j'ai questionné le souvenir familial autour de ce 18 juin 1940. Votre père a entendu cet appel.
Oui, mon père, André Veil Curiel, avait été rapatrié à Londres avec d'autres soldats qui étaient à Dunkerque. Mon père était agent de liaison entre l'armée française et l'armée britannique, qui était quasiment bilingue. Et puis, il a rejoint le bureau information français. Et le discours du général de Gaulle à la radio a été diffusé le soir. Le lendemain matin, 19, il appelle l'ambassade de France pour se mettre en relation immédiatement avec le général de Gaulle pour s'enregistrer comme étant un Français qui allait soutenir son action. Il était accompagné de son ami Hawke. Et puis, à l'ambassade, on lui répond qu'on ne le connaît pas et qu'on ne sait pas comment le localiser. Et sur l'insistance de mon père, la secrétaire qui le connaissait, puisqu'il était venu déjà plusieurs fois à l'ambassade, lui a dit en confidence, mais surtout ne répétez pas que c'est moi qui vous l'ai dit, lui a donné le numéro de téléphone et l'adresse du général de Gaulle. Immédiatement, mon père l'appelle et le général de Gaulle fixe rendez-vous le jour même à midi. Et il s'est présenté, c'était son aide-de-camp Courcelles qui ouvre la porte et qui l'introduit. Et à ce moment-là, un peu de temps après, le général l'écoute, sa profession de foi en quelque sorte. Et comme c'était l'heure du déjeuner, il lui dit « Écoutez, votre première mission, ce sera de répondre au téléphone pour me permettre d'aller déjeuner avec Courcelles ». Et voilà comment les choses se sont passées.
Jean Descartes.
Oui, je trouve ça très intéressant. Bonjour madame. Moi, si vous voulez, dans le contexte de l'époque, c'est très facile d'évoquer les choses simplement comme ça, mais c'était beaucoup plus compliqué parce qu'après son discours, de Gaulle est un paria, il va être condamné à mort. Il est donc hors la loi à tout point de vue, du point de vue français. Ça, c'est très important. Le deuxième point, j'y reviens, c'est que c'est la naissance d'un duo, d'une rivalité de deux tempéraments fantastiques, de Gaulle, Churchill, qui ne vont pas s'aimer, mais s'estimer et se respecter. Et le roi George VI n'arrêtera pas de dire, le père de la reine actuelle, de dire à Churchill d'être moins sarcastique avec de Gaulle, et moins critique. C'est très intéressant parce que ces deux hommes avaient une immense valeur et un souci de la langue et du verbe très précis.
8h37. Europe 1. Merci Linda pour votre témoignage, la mémoire familiale de Linda ce matin sur Europe 1. On va poursuivre Jean Descartes avec Romain qui nous appelle. Il a 25 ans et on va parler de ce que c'est que le gaullisme aujourd'hui. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h36, vous écoutez Mathieu Béliard et en ce 18 juin pour les 80 ans de l'appel du général de Gaulle, vous recevez l'historien Jean Descartes et vous intervenez au 39-21 avec le hashtag Europe 1.
On va faire un bond dans le temps, Jean Descartes, après le témoignage de Linda qui nous ramenait au mois de juin 1940 à Londres. Nous sommes avec Romain à Limoges ce matin. Bonjour Romain.
Bonjour Mathieu. Merci. Et bonjour à Monsieur Descartes.
Bonjour Monsieur.
Alors j'ai posé la question comme ça ce matin. Pour vous, en 2020, ça veut dire quoi être gaulliste? Est-ce que ça a du sens? Et vous avez pris le téléphone pour dire oui, pour moi ça a du sens le mot gaulliste.
Alors vous me permettrez d'abord juste de dire mon profond respect pour M. Descartes. J'ai apprécié le travail notamment sur Haussmann et le Second Empire, qui est une période qui est trop souvent oubliée. Voilà, je voulais juste le mentionner.
Et content d'être venu, Jean Descartes.
Merci beaucoup. Je reviendrai, si on m'invite, je reviendrai. Merci monsieur.
Et d'ailleurs, le Second Empire et Napoléon III, c'est assez lié au général, hein, avec le travail de Philippe Séguin, mais je m'arrête là. Pour ce qui est du gaullisme, pour moi, c'est extrêmement important et ça fait référence à ce qu'on vit actuellement. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le De Gaulle d'avant-guerre, celui qui a écrit le fil de l'épée, l'armée de métier, qui avait vu avant tout le monde, finalement, ce qui allait se passer, que personne n'a écouté. Il parlait d'ailleurs même à l'époque de racaille, je crois dans une lettre à sa mère, de racaille politicienne, face à la médiocrité ambiante. Pendant la guerre, moi je crois que ce qui est vraiment fondamental, c'est la politique d'équilibre qu'il a menée. Vous parliez de Churchill tout à l'heure, mais il y a aussi tout le rapport qu'il a développé avec la Russie, qui est fondamental. Et le lien avec Staline, qui était effectivement complexe, mais de Gaulle a compris qu'il ne pouvait pas tout miser sur les Américains et les Anglais. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, justement. Et c'est pour ça que de Gaulle devrait nous inspirer un peu plus, c'est que notre politique étrangère n'est pas assez équilibrée, je crois, aujourd'hui.
Si je comprends, Romain, entre les lignes, au-delà de l'esprit de résistance dont on parle beaucoup, il y a cet esprit d'indépendance, Jean Descartes.
Oui, absolument. Et je partage votre point de vue, monsieur. D'ailleurs, de Gaulle ne disait pas les Soviétiques, il disait les Russes, car il pensait que l'URSS serait une parenthèse, si je puis dire. Et il y a eu des grands échanges avec Staline et une conférence au Kremlin vers la fin de la guerre qui permettait à Staline de reconnaître le gouvernement provisoire qui allait arriver du général de Gaulle et qui donnait aussi à la CGT, au Parti communiste, son importance dans l'histoire de la guerre et notamment de la résistance. Donc, le général de Gaulle était un homme pétri de culture historique. Il avait lu aussi bien Tacite que Chateaubriand. Donc, on avait un homme très cultivé qui écrivait très bien et c'était tout de même important d'avoir une connaissance de l'histoire qui nous fait un petit peu défaut aujourd'hui.
Écoutez, Jean Descartes, je vais vous poser une question difficile. Tous se réclament aujourd'hui du général de Gaulle, d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen même, qu'on a pu voir sur l'île de Sein. Évidemment, les Républicains, parfois à gauche. Vous en voyez un, vous, si on prend les personnalités politiques, un héritier ou une héritière du général de Gaulle?
Non, je n'en vois pas. Et d'abord, je ne m'y risquerai pas, mais je n'en vois pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la seule personne qui pourrait vraiment se réclamer du gaullisme, ce serait quelqu'un de très cultivé, de respectueux de la chronologie historique. Il faut voir, par exemple, lorsque le général de Gaulle a présenté les bases de 1958, de la Constitution, il a passé en revue le passé historique, si je puis dire, de la France. Quand il dit, par exemple, il manque un roi à la République, c'est-à-dire qu'il veut stabiliser le rôle du chef de l'État, la Constitution, etc. Il y a une vision d'ensemble, alors qu'aujourd'hui, nous avons des regards très étriqués et immédiats. Et je veux dire que les réseaux sociaux, les téléphones portables, qui sont dans l'émotion, oui. Mais ça n'aide pas à la réflexion et à la vraie connaissance, y compris de la chronologie historique.
Et je vous remercie Romain de votre appel au 39-21, parce que quand je parlais du gaullisme, je m'attendais à ce qu'on parle de la suite de l'après-guerre, et Romain est revenu sur le général, sur Charles de Gaulle avant la guerre. Merci Jean Descartes.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venu nous éclairer ce matin, bien sûr. Répondre à nos auditeurs aussi, Linda et Romain qui étaient en ligne avec nous. Et Jean Descartes, on vous retrouve évidemment sur le podcast Au cœur de l'histoire. Il est 8h43 sur Europe 1.
Europe 1. A tout de suite avec la revue de presse. Nicolas Cantelou et Julie sur Europe 1. Europe 1, il est 8h46.
Europe 1. Et ils sont là, Nicolas Cantelou avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Oui, bonjour Julie, bonjour à tous. Chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. L'actualité ce matin, c'est Anne Hidalgo qui veut abaisser la vitesse à 30 km/h dans Paris. Vous avez bien entendu, oui, 30 km/h. Donc faites le calcul. Si on roule à 30 km/h dans Paris, ça veut dire qu'on roule donc 6 fois plus vite que d'habitude. Ben oui, vous l'avez compris, avec tous les travaux et les bouchons, ça fait près de 10 ans que personne n'a réussi à rouler une fois dans Paris. À 30 km/h. Et puis l'autre info, c'est bien sûr Pékin. Pékin qui connaît un rebond de coronavirus. Les écoles sont à nouveau fermées et c'est l'inquiétude sur place.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi. C'est Jean-Pierre Affarin, RAFFARN, le spécialiste de la Chine, le chinologue diplômé d'État. Écoutez, il ne faut pas s'alarmer. Je le dis à vos auditeurs, il n'y a aucun risque.
Ah bon?
Mais non, Madame Julie, la Chine ferme ses écoles. Mais rassurez-vous, les enfants peuvent toujours aller à l'usine et fabriquer des masques dont nous avons besoin. Vous voyez, donc nous ne risquons rien. La chaîne, le flux d'approvisionnement de masques est assuré.
Eh bien, on est rassurés, nous, alors. Il va falloir travailler davantage. C'est la petite phrase prononcée par Emmanuel Macron qui fait toujours grand bruit. On va recevoir tout de suite le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour aux camarades syndiqués de la matinale d'Europe 1. Ce soit Monsieur Lassène, Paul, Madame Roche-Omblin ou Monsieur Cabrol-Laurent. Voilà. Alors comment...
Comment vous l'avez comprise cette phrase?
Bah écoutez, je vais vous répondre. Comment que j'ai compris cette phrase? Bah je crois qu'il n'y a pas besoin d'un dictionnaire de synonymes Macron pour comprendre. Hein. Macron nous prend clairement pour des cons, voilà, pour des zozos. Hein. Le travailler davantage, oui, bah, excusez-moi, ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire. Le travailler davantage de Macron, c'est la même chose que le travailler plus de M. Sarkozy. Hein. Ouais. Pour causer trivialement, voilà, bah, si on traduit du Macron, on va se faire ken et en même temps on va se faire ken, voilà. C'est du Macron dans le texte, voilà. Voilà. Alors... ce que je pense. Voilà.
Alors Bruno Le Maire.
Ça tombe bien parce que je suis de mon avis.
Vous êtes d'accord avec vous, ça va.
Bruno Le Maire a tout de suite essayé d'éteindre l'incendie. Il a dit que le président n'avait pas voulu dire ça. Voilà.
Ah, il n'a pas voulu dire ça, il a dit, et qu'il voulait éteindre l'incendie. Donc, monsieur le maire, maintenant, on vient de le comprendre, pas seulement ministre des Finances, mais il est pompier, prof de français, c'est ça. Hein, il nous traduit le français du patronat et en français de droite. Ben, on n'a pas besoin de lui, hein, vous savez, à la CGT, on a compris le message. Hein,
Alors là, je dois dire que je suis d'accord. Je suis d'accord avec le camarade Martinez. Bien dit, Philippe.
Eh ben tiens, c'est vous, monsieur Régis, de la CGT SNCF.
Oui, bonjour à tout le wagon. Bonjour, camarade Martinez. Alors là, on est remonté à la CGT SNCF. Ah oui, on est remonté. Non, mais franchement, la vulgarité de ce président. La grossièreté de Macron, là, mais comment ose-t-on parler comme ça aux Français?
Mais
la vedette, tu me coupes pas, Leclerc, t'as pas ta carte, toi, il passe trop de temps au téléphone avec Bigard, le Macron, la vulgarité du propos, non mais on croit rêver.
Qu'est-ce qu'il a dit de si vulgaire, Macron?
Mais je sais pas ce qu'il vous faut, Mais j'ose à peine le répéter sur votre antenne.
Allez-y.
Il,
J'y vais. Il a dit, il faut travailler davantage. J'aurais pas dû le dire, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Non, mais c'est des propos immondes. Oh, ben oui, c'est des propos orduriers. Travailler davantage. Et oh, et oh.
Oh là là, on vous sent drôlement choqué. Hein. Mais qu'est-ce qui est si grave, dites-nous.
Mais qu'est-ce qui est si grave. Bon, on va faire l'exégèse, oui, parce que je connais des mots compliqués.
Bien.
Oui, il y a deux grands axes dans cette proposition. Il y a l'axe travailler, et ça, alors ça, la CGT, on n'est pas d'accord. Puis il y a le deuxième axe qui est davantage, alors là, là par contre, là, on n'est pas d'accord non plus. Et alors les deux ensemble, non, mais c'est le pompon, c'est le bouquet. Je te prends un témoin, camarade Martinez, je trahis pas ta pensée.
Non, là, je crois que t'as bien résumé, camarade. Régis, on est d'accord sur le fond, voilà. C'est
Nous faire travailler davantage, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Oui, ça, on sait. Allez, merci messieurs. Marine Le Pen s'est rendue à Dijon après les règlements de compte entre bandes rivales. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame. Et bonjour à toute votre smala et... Et bonjour à toi, jolie métisse. Tu sais que tu as de la chance, toi, que la technique du plaquage au sol ne soit plus conseillée.
Oh, dis donc.
Oh, oui, sinon, mon coquinou, je t'aurais bien collé mon genou dans le dos, vilain garde-monde. Mais bref, ce n'est pas le sujet, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Non, c'est pas le sujet.
J'étais donc à Dijon hier. Et je me disais à propos de Dijonner. Et d'ailleurs, tiens, si on déjeunait avec Mathieu.
Oh là là.
Oui, on peut écouter.
Allez-y.
Je sais que tu es sensible à l'humour intellectuel et sophistiqué. Tu es un dandy de la matinale, Mathieu. Bref, revenons à nos moutons. Ils sont d'ailleurs égorgés à la fête de l'Équilibre par les différentes communautés.
Oui, alors, ces affrontements entre balleries. Ces affrontements entre bandes rivales à Dijon, vous avez demandé pourquoi la police n'avait rien fait.
Écoutez, madame, je suis scandalisé. Que fait la police au sujet de ces hordes de Tchétchènes? Que fait Monsieur Castaner? Pourquoi n'a-t-il pas décroché son téléphone pour parler à leur leader?
Ah bon, vous auriez téléphoné, vous, hein, afin de trouver une issue pour le dialogue?
J'aurais téléphoné au leader tchétchène pour l'embaucher.
Ah.
Ben oui, l'engager dans la police, lui et ses amis. Nous avons vu les images, comme tous les citoyens français. Voilà des vrais combattants. Voilà les gens qui n'ont pas peur des maghrébins, dealers de crack. Voilà, ils sont intervenus en 24 heures avec des fusils, avec des gourdins, des haches et des grenades. Ils ont fait sauter toutes leurs dents aux arabo-musulmans, vendeurs de shit, voilà. Voilà la police de mes rêves. Pourquoi ces Tchétchènes ne constituent pas une brigade nouvelle d'intervention spéciale, voilà. Parce que comparons, madame Leclerc, excusez-moi, madame Roche, je suis la scène. Nos CRS, c'est des danseuses classiques à côté de ces messieurs. En tout cas, je leur dis à ces Tchétchènes, quand ils veulent, je les embauche pour mon service d'ordre personnel.
Eh bien, le message est passé. Merci Marine Le Pen, merci beaucoup. La presse révélait récemment que Jean-Jacques Bourdin avait été poussé vers la sortie par RMC et que l'animateur de 71 ans le vivait très mal. On va voir ce que donne l'ambiance à RMC ce matin.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC. RMC, radio, mon chômage. Voilà, oui. Je vais tout vous dire, j'ai fait, oui, semblant, quelque temps que j'arrêtais l'animation de la matinale de mon plein gré, mais voilà, puisque l'info est sortie dans la presse, autant vous l'avouer, j'étais... Viré, c'est le mot. C'est viré comme une vieille chaussette, victime certainement du jeunisme, sous prétexte que j'ai 61 ans. Christine ? Oui, 71, pardon. La prochaine fois, tu fermes ta gueule. Alors aujourd'hui, je vais être transparent avec vous, je le vis mal, j'ai peur, comme tout un chacun, de ne plus servir à rien, d'être inutile comme un... Quoi, comme un vieux Minitel ou une Agnès Buzyn. Enfin bref, j'ai encore un mois de contrat et la vie continue. Allez, positivons. Je vais prendre
Je vais faire mon travail. Je vais prendre un auditeur. Et c'est... Ah. Allez, oui, allez. Allez. C'est... Petit privilège du jour. C'est René. Ah. C'est René qui est au bout du fil. Bonjour, René.
Oh putain, Gijac, j'aime pas te voir comme ça,
eh oui.
Tout mou là, tout triste avec tes yeux de chien battu, on dirait François Hollande triste, alors saisis-toi Gijac, oh, t'es pas un PD, oh.
Vous voyez, vous arrivez à me faire sourire, merci René. Mais non, écoutez René, il faut se rendre à l'évidence, je suis comme un vieux chien qu'on abandonne sur le bord de l'autoroute. L'heure pour moi a sonné, je ne suis bon qu'à quoi, à regarder des chiffres et des lettres en slip et en robe de chambre, ça doit être ça.
Mais non, Gijac, on va te sortir de là, Gijac, t'es pas inutile, non, t'es pas inutile. Tu sais quoi, moi je vais t'engager comme taxi, moi, voilà. Ouais. En plus, t'as toutes les compétences, tu roules à 191 km à ville, t'as été gaulé.
C'est
vrai. Tu racontes la perf, tu peux faire Paris-Roissy en 22 minutes, pognon que tu vas nous faire gagner là, non, t'es un bon Gijac. Si je te pistonne en 2-2, je suis sûr, à la G7, il t'engage.
C'est pas faux, René, c'est pas faux. Vous pensez que je peux donc... ça me rassure ce que vous dites. Vous pensez que je peux encore servir à quelque chose?
Mais bien sûr, Jean-Jacques, t'es un pilote, Jean-Jacques. Et puis attends, je te dirai, si la Apolline aux fines herbes, là, elle conduit la matinale comme elle conduit le bagnole, elle va finir dans le mur. Hein. Et oh, ça c'est une gonzesse quand même.
Apolline de fines herbes, elle va vite finir dans le mur, ça reste une gonzesse. Merci, merci René pour ces mots qui sont tellement vrais, qui me touchent, qui me vont droit au cœur. À vous Julie.
Magnifique.
Nicolas Canteloup et la revue de presse évidemment à retrouver sur europe1.fr. 8h57 sur Europe 1. La suite de la matinée, c'est avec Philippe Vandel, vous le savez, Culture Média, de 9h à 11h, nous, Omblin, on revient demain matin.
À partir de 5h avec Julien Pierce.
Merci de nous avoir suivis depuis tôt ce matin, moi je serai là à 6h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.
C'était Mathieu Bellière sur Europe 1.
Europe 1.